entre la décision et le fait que nos affaires se retrouvent dans un appartement à Lorient, il y a eu un peu plus d'un mois et demi, quoi. C'est pas le fait de le faire qui est compliqué, c'est plus tard qu'on verra si c'est simple ou pas.
Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de Ciao Paris, le podcast des futurs ex-parisiens et parisiennes. Je m'appelle Valérie Bohain et je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je n'arrive pas à faire, enfin pour l'instant, quitter Paris. Aujourd'hui, je suis avec Tristan, qui a décidé sur un coup de tête avec sa compagne Odile qu'il était temps d'aller s'installer à Lorient. Pour les deux prochains épisodes, il nous emmène dans les montagnes russes de son changement de ville. Aujourd'hui, il se confie sur le déclic qui les a fait déménager si vite et il s'interroge beaucoup sur la suite. Et moi aussi. Donc dans 15 jours, je vous propose de retrouver à nouveau Tristan pour un prochain épisode sur la suite de sa nouvelle vie en Bretagne. Avant de commencer, je dois prévenir les oreilles sensibles que des blagues pourries se sont glissées dans ce podcast. Je vous laisse avec cette nouvelle histoire, ce nouveau départ en deux épisodes, celui de Tristan, 37 ans, qui a quitté la banlieue parisienne pour la Bretagne Sud avec Odile et leurs deux fils, Sacha et Paolo.
Moi, j'ai donc toujours vécu à Paris. Je suis né en Bretagne parce que c'était les grandes vacances. L'idée de quitter cet endroit dans lequel j'ai tout vécu, je sais qu'il y a une barrière psychologique qui est assez énorme. Mais c'est vrai que par exemple pour Odile, ma compagne, donc, elle a vraiment relativisé cette barrière. C'était pas aisé de partir pour elle, parce qu'il y a énormément d'amis et de la famille ici. Mais pour elle, c'était quand même plus simple, quoi. Même si on va quand même dans une ville où on connaît pour le moment personne et qu'on connaît pas. Et enfin, je sais pas, c'est une espèce de pari sur la confiance. En même temps, on va pas non plus au bout du monde. On est à Lorient, c'est quand même une grosse ville. Mais sinon, c'est vraiment une espèce de table rase et on a priori tout à construire, quoi.
Pose-moi le décor de ton déclic.
Avec Odile, ça fait 8 ans ou 9 ans qu'on est ensemble, qu'on est amoureux. Et ça fait sans doute au moins 5 ans que l'envie de partir est persistante. Plus ou moins forte, plus ou moins grande, hein, mais toujours quand même présente, sans jamais rien réellement faire pour. Si ce n'est il y a un an à peu près, on avait un peu envie de la Bretagne. La question de Lyon aussi s'était posée, surtout par rapport au boulot, parce qu'Odile, elle a un réseau professionnel beaucoup plus important en Rhône-Alpes.
Odile est comédienne comme toi.
Et elle a fait l'école de la Comédie de Saint-Étienne, donc voilà, elle a plus de liens là-bas. Puis après, étant originaire, moi, de Bretagne, j'avais plutôt envie d'aller par là. On est allé à la Toussaint passer une dizaine de jours entre Vannes et puis Lorient pour visiter des endroits où habiter et réfléchir à un projet de départ précis, quoi. Et ensuite, c'est tellement aisé de se rendormir dans son quotidien et de mettre de côté cette envie de partir qui est persistante, mais pas indispensable.
Donc entre novembre et le confinement, elle s'endort. Ouais.
Oui.
Et puis le confinement arrive.
Odile jouait donc dans une pièce tous les soirs. La semaine pendant laquelle il y a eu les annonces qui ont demandé la fermeture des écoles. Et donc les salles de plus de 5000 places étaient fermées. Puis c'est descendu à 100, je crois, et en sortie de scène, le samedi soir, ils apprennent que le lendemain, ils ne pourront pas jouer. Moi, c'était une semaine pendant laquelle je toussais, mais c'était très clair que tant qu'on n'avait pas de fièvre, on n'était pas, on n'avait pas le Covid. Et puis, je faisais de la danse le jeudi soir, et sur un pas de danse un peu physique, je me rends compte que je m'essouffle énormément, alors que ça fait un mois que je n'ai pas fait de sport, mais quand même, je trouve ça un peu bizarre. Et tout ça, c'est les morceaux qu'on recolle après, hein, parce que sur le moment, je me dis juste, bah, sinon, je ne suis pas en forme, c'est tout. Donc là, on a la chance d'aller en Normandie, à la campagne. On a la chance d'avoir le Covid aussi d'entrée de jeu. Et donc le dimanche, on fait des paquets, on remplit la voiture pour partir et je commence à avoir un peu de fièvre. Et là, je me dis que ça y est, je vais être très malade, comme tout le monde. Hein. Et donc ça, ajouté aux informations, ajouté au fait de partir, de mettre aussi des courses dans sa voiture pour avoir à ne pas sortir de la maison, c'est quand même très étrange aussi. Et donc voilà, et on part. Après, c'est à 1h30 de Paris, donc c'est pas très loin, mais ça suffit pour qu'on gamberge vraiment.
Et de quoi vous avez peur à ce moment-là?
Je sais pas, les enjeux montent sérieusement. On s'est tous les deux dit qu'on allait perdre des gens, qu'on allait peut-être pas pouvoir leur dire au revoir. On a vraiment vécu un sale moment, tout ce passage-là. Là. Et là, on arrive en confinement. Donc, le fait d'être dans la nature nous plaît énormément, vraiment. Tous les jours, il faisait beau, donc tous les jours, je disais, bon, là, il fait beau, on va dehors. Je sais bien qu'à un moment, il va pleuvoir. Puis en fait, il pleut jamais. Donc au bout de 3 semaines, bon, bah maintenant, on n'est pas obligé d'être dehors tout le temps.
Mais c'est vrai que sinon... Il fait trop beau, les enfants ne sautaient pas.
Non, et puis on a fait l'école à la maison aussi, on a essayé de, voilà, d'avoir des petites rigueurs à cet endroit-là quand même. Et c'était très bien, mais du coup, on jouait aussi sur le fait d'avoir des récrés, quoi. Que ce soit pour nous ou pour eux, c'est que c'était important de pouvoir être dehors.
Ouais.
Juste le fait d'être dehors, en fait, de prendre cette lumière, et que ce soit si facile, je ne sais pas jusqu'où c'est indispensable, parce qu'on arrive à faire autrement. Mais en vérité, c'est essentiel quand même.
Moi, ça me fait ça à chaque fois que je vais à la campagne, que je rentre en Corse, de pouvoir aller dehors, enfin dehors au contact de la nature. Quand je constate le bien que ça me fait,
ouais.
Je comprends en tout cas que je vis avec un manque permanent.
Ouais, ouais, mais complètement. Après, quand on habite ici depuis 37 ans, je parle de moi du coup, hein, et qu'on n'a pas d'amis ailleurs, c'est logique de rester ici aussi.
Quel rôle a joué le confinement dans votre départ ?
Pour ceux qui n'ont pas pu travailler pendant ce temps-là ou qui n'étaient pas surchargés de boulot et qui avaient la chance de pouvoir être à un endroit relativement confortable, ça a été vraiment un moment de réflexion. Et mars, avril, mai, il a dû pleuvoir 4 fois en Normandie, dans le pays de Bray, là où on était en tout cas, et c'est trop peu, quoi. Et donc, bah, voilà, on est assez alerté de pas mal de choses desquelles on est totalement déconnecté aussi, nous, en tant que Parisiens.
Finalement, le fait d'être confiné à la campagne, ça éveille un besoin chez toi de prendre cette transition écologique aussi.
Ouais, ça réveille ça à nouveau, ouais. Ouais, ouais. Dans une réflexion un peu collapsologiste, là, le Covid, ce serait l'apéro par rapport à ce qui risque de nous arriver. Moi, j'essaie de rester positif par rapport à, voilà, tout ce qui est possible, mais quand même, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Pas suffisamment de choses qui sont faites pour vraiment essayer d'inverser la vapeur et de faire en sorte qu'on ne pourrisse pas complètement notre planète le plus vite possible. Donc, par rapport à ça, le fait de s'écarter d'une grande ville, éventuellement de pouvoir faire pousser des légumes, c'est vraiment une réflexion qui taraude bon nombre de personnes.
Qui te taraude, toi en particulier ?
Oui, aussi, oui. Après, nous, on n'a pas subi une guerre à proprement parler, enfin militairement parlant. Alors, il n'y a plus de couvre-feu, mais il y en a eu. Pendant le confinement, on n'avait quand même pas le droit de sortir de chez nous. Moi, je suis très en colère par rapport à tout ça aussi. Hein. Enfin, je sais pas,
Qu'est-ce qui te met en colère ?
Ben, de ne plus faire la bise à ma mère. C'est triste. On se protège les uns des autres parce qu'on est tous porteurs de choses mauvaises. Je fais une analogie aussi. Je pense que quand le préservatif est arrivé, j'imagine que pour les gens qui ne connaissaient pas cet outil, ça leur a semblé antinaturel aussi et terriblement triste, quoi. Bah, moi, le masque, là, me procure exactement les mêmes choses. Et par contre, j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait utiliser des préservatifs, donc ça ne m'a jamais semblé antinaturel, ça m'a semblé évident. C'est probable que dans 20 ans, nos enfants portent des masques et trouvent ça normal. Et donc, c'est aussi quoi ensuite ? Moi, ça, voilà, ça m'attriste, ça me pèse, et du coup, franchement, ça me met en colère.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait basculer votre décision, en tout cas qui vous aide à prendre la décision de partir ?
Le déclic qui fait ce bruit-là. Ça doit être début juin. J'ai mon meilleur ami qui me dit que lui et sa femme ont pris la décision de partir à Montpellier. Et là, je dis pas que c'est comme une autorisation, mais d'un coup, moi, chez moi, ça se met en relief, en exergue. C'est possible de partir. C'est un truc mental aussi, hein. Un truc qui, en fait, s'ouvre ou je sais pas. En tout cas, c'est le moment où on se décide à repartir. Donc, on a passé 5 jours à Lorient.
Vous allez chez des amis ?
On loue une chambre sur un bateau, en Airbnb, et c'est super. Et au bout d'un jour et demi de Lorient, de visite, à un moment, elle me dit, là, je ne me vois pas du tout faire la rentrée au lit, là. Et pourtant, on est début juin, et la rentrée, c'est quand même que 3 mois plus tard. Par rapport aux écoles, par rapport au fait de trouver un appart, tout ça, c'est aussi des choses qui semblent très complexes. Et en vérité, ça n'a pas été très confortable, hein, puisque tout empaqueter, tout déménager, c'est quand même des épreuves, c'est sûr. Mais tout ça, c'est vraiment faisable.
En 3 mois, vous avez pris vos clics et vos claques et...
Entre la décision et le fait que nos affaires se retrouvent dans un appartement à Lorient, il y a eu un peu plus d'un mois et demi, quoi.
C'était l'Orient Express, quoi.
Bien vu.
Pardon.
T'as préparé des choses.
Mais pas du tout. «
Comment vous procédez pour trouver le bon quartier pour,
Là, on se renseigne un petit peu comme on peut, hein, mais un peu vite. Et puis, du coup, en fait, là, on est quand même en hyper-centre.
Vous vouliez être dans le centre-ville ?
Pas forcément. Il y a un autre endroit qu'on a pas mal visité, qui est de l'autre côté de la rade de Lorient, en bateau-bus à 7 minutes. On a un peu visité par ici, puis autour de Lorient, d'autres villes ou villages qui sont vraiment pas loin. Et au final, effectivement... comme étape première, il s'est avéré qu'on a choisi quelque chose qui était vraiment en plein cœur de Lorient. On était en location, c'est un appartement qui appartient à la famille d'Odile Olila. Et là, on est du coup à nouveau en location, mais auprès de quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Et le fait d'être comédien tous les deux
Le fait d'être intermittent, ça amène quand même une stabilité.
Oui, oui, ça amène une certaine stabilité, mais une certaine forme d'instabilité aussi.
Ah, oui.
Et est-ce que ça a posé des problèmes pour vous, pour trouver un appartement à Lorient ?
Eh bien, j'ai eu peur de ça. Quand on m'a dit « Est-ce que vous êtes en CDI tous les deux ?», je me suis dit « Ah non, on va me reposer des questions qu'on m'a déjà posées il y a longtemps et j'ai pas envie de faire des dossiers. » Et en fait, ça a été relativement simple. Il y a eu une journée où il y a deux personnes qui nous ont dit « Non, mais moi, j'ai pas peur des intermittents, il n'y a pas de problème, on vous fait confiance. »
Cool.
Ouais, cool, ouais.
Ça t'a surpris, ça ?
Oui, oui, parce que je pensais vraiment qu'on allait se confronter à un problème. Après, j'ai pas trop cherché la petite bête non plus. Il y a un moment où, quand on nous a dit oui deux fois dans la même journée, voilà, on a choisi un des deux assez vite. Étant donné qu'on fait la rentrée ici en septembre, il y a un moment où, en fait, faut que les choses se posent, quoi. Du coup, c'était possible de se projeter un peu plus précisément aussi.
À quel moment vous avez inscrit les enfants à l'école ?
Début juillet.
Mais vous attendiez d'avoir l'appart ?
Ben, il fallait avoir une adresse, quand même. En réalité, ça n'a pas été très compliqué, hein,
ouais.
Tu vois. On a cherché 3 jours, c'est pas un effort phénoménal, tu vois, pour trouver un appartement. Après, je pense que le marché de l'immobilier à Lorient est moins tendu qu'ici.
C'est Anaïs, dans l'épisode 7, qui dit « Je crois que c'est la première fois de ma vie que je prends un appart parce qu'il me plaît et pas juste parce qu'il est dispo. » Et il est magnifique, son appart. Mmh. L'hôtel particulier est dingue, elle a une petite cour. C'est fou, quand même.
Nous, on l'a choisi un peu aussi. Il y a des fenêtres partout. T'es en plein cœur de la ville, ça c'est chouette aussi. Après, il était un peu crade. Même la personne des yeux trouvait ça crade. Elle est partie, Odile a pleuré. Elle a dit « Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on se fait ça ?» quoi, tu vois. Donc, il y a des bouleversements, donc tes émotions, elles te traversent. Quoi.
Voilà. C'est les montagnes russes. Hein.
Bah, un petit peu, un petit peu.
Pourquoi elle a pleuré, Odile, d'après toi ?
Parce que l'appart était crade, parce qu'il lui plaisait pas trop. Et voilà, tout de suite, on a mis un coup de frais. Et ça a été beaucoup plus agréable. Bah, après, notre plan, c'est plutôt d'habiter quand même dans une maison avec un extérieur. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un appartement en plein centre-ville. Donc, ça ne marche pas.
Mais c'est une première étape.
Bah ouais, bien sûr. Là, c'est l'idée aussi d'arriver sur place et puis de se rendre compte si autour de, en effet, Lorient ou dans Lorient, il y a quelque chose qui peut nous convenir. Et puis là, c'est un très bon compromis pour commencer, quoi, en tout cas.
Ouais.
On verra combien de temps on reste dans cet appart, parce que parfois, on se dit qu'on reste pas très longtemps, et puis on reste 5 ans. C'est pas forcément très long, hein, mais...
Les premières personnes à qui vous en parlez ?
Je me souviens pas bien.
C'était pas un moment qui t'a marqué plus que ça ?
Non, je sais que pour mes beaux-parents, évidemment, ça a été un peu compliqué parce qu'ils voyaient leurs petits-enfants tous les mercredis, qu'on est très proches. Pour eux, je pense que ça a été dur, mais ils sont intelligents et du coup, ils nous ont même aidés dans la démarche en essayant de trouver des choses, des apparts, etc. Mais c'est Odile qui leur a dit vraiment.
Et toi, à qui est-ce que tu l'annonces ? Ou c'est un moment important pour toi ?
Mes amis proches. Oh là là, mais. Pardon, ouais. Excusez-moi. J'ai déjà pleuré hier en racontant des trucs. Et là. Je pense que je suis un peu fatigué aussi. Du coup, voilà, ça vient. Puis je suis une grosse Madeleine, donc voilà. Il y a eu le moment. Donc, auprès de mes. Ça va, hein.
Ça va,
mes amis, quoi, voilà.
Tu revois un peu d'eau ?
J'en ai.
T'en as.
Pour l'un d'entre eux, surtout, qu'on n'abandonne pas non plus, on ne faut pas déconner, mais... Donc, Camille nous avait dit 2 semaines plus tôt qu'il allait déménager. J'avais dit que nous aussi, c'était probable qu'on reste pas très longtemps. Et donc, 2 semaines après, on fait le même type de réunion, 4 amis et nos familles. Et on dit, bon, bah, c'est nous qui partons et... Franchement, je suis fatigué parce que ça devrait pas...
Ouais, c'est quand même une grosse étape, hein.
Ouais, sans doute, ouais. Alexis, il l'a pris un peu en pleine poire, quoi. Camille, je connais depuis plus de 30 ans maintenant, parce qu'on a été en primaire ensemble. Et avec Alexis, on est ensemble depuis le collège, la 6e. Et on s'est vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, en plus, il habitait à 10 minutes à pied de chez moi. Camille était aussi à un quart d'heure, mais de l'autre côté. On a aussi Manu qui vient d'emménager à Romainville. Et il y a la moitié d'effectifs qui s'envolent, quoi. Bon, après, encore une fois, c'est quand même une démarche hyper positive et on va pas au bout du monde.
Mais c'est la fin d'une ère.
Il se passe des choses et c'est super, quoi. Hein, ça fait bouger les lignes et c'est tant mieux. Et puis, il y a ma mère qui, au téléphone, m'a dit que pour Alix, ma petite sœur, qui habite en Bretagne, et elle, c'était vraiment super, quoi. Et ça m'a fait vraiment plaisir aussi qu'elle me le dise, évidemment.
Donc pour toi, c'est un retour aux sources
Une idée de retour aux sources, quoi. Moi, j'ai un nom breton, mais je ne sais combien de générations, sûrement 8 ou 10 qu'on est ici, quoi. Donc,
à Paris.
Ouais. Étant à Paris, c'était sûr que j'étais breton. Arrivant là-bas, peut-être.
Comme si ça questionnait ta légitimité en tant que breton.
Il y a Triane, qui ma mère adore cette... Ouais, une espèce de chanson autour de ça.
Elle dit quoi, cette chanson?
Elle dit qu'on est breton dans son cœur. Et que la Bretagne, elle adopte qui veut, en fait. Et on s'en fout du sang. Voilà, cette chanson est peut-être un tout petit peu grandiloquente. Et du coup, je me moque un peu de ma mère qui l'adore parce qu'elle trouve ça super juste. Et mais peut-être qu'elle a raison. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est joli, qui est ouvert là-dedans.
Comme vous avez fait ça quand même très vite, c'était quoi un peu les différentes étapes pour vous de délocaliser votre chez-vous au des Lilas à Lorient?
On a fait plein de cartons, on a essayé de se séparer du plus grand nombre de choses qui nous semblaient vraiment pas indispensables. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de choses dont on se servait pas. Moi, je suis un fameux stalker quand même. Ben, j'aime bien ramasser des trucs dans la rue et me dire que je vais les retaper et pas les retaper forcément.
Voilà, bienvenue au club.
Voilà.
Ouais, je suis dans le même club que toi.
C'est bien.
Au grand désespoir de mon mari, mais...
Il faut réussir à faire le tri de temps en temps, voilà. Si un jour vous déménagez, ça c'est le truc sur lequel j'aurais bien voulu anticiper pendant 6 mois.
Ouais, voilà. Faire le tri d'abord dans la maison avant de faire les cartons.
Ouais, faire ce grand tri-là, quoi. Que là, du coup, on a fait très vite et du coup mal, et du coup, il y a des choses avec lesquelles on a déménagé alors qu'on va continuer à pas s'en servir.
Donc vous avez fait les cartons vous-même?
Ouais.
Les enfants vous ont aidé?
Un petit peu. C'était important pour eux aussi, pour leur rendre la chose bien concrète, qu'on empaquette leur chambre. Démonter leur lit aussi, on a fait ça ensemble. Ça, c'était chouette. C'est quand même un endroit dans lequel ils se retrouvent tous les jours, longtemps. Donc ça me semblait très important. Et puis c'est très simple de dévisser un lit aussi. Hein, y a 8 vis, et puis hop. J'ai essayé de ne pas leur mettre le paquet du départ sur le dos, c'est-à-dire le fait que c'est un peu lourd de quitter un endroit, etc. Vraiment, ils l'ont vécu beaucoup plus simplement que nous. Hein. Et même une fois arrivés à Lorient, on était à la plage et je dis à Sacha, t'as vu c'est génial, non, d'être à la plage en 15 minutes de chez soi. Et il me dit, oui, on va se baigner. Et voilà, pas de... voilà, c'est beaucoup plus simple. Moi, je suis là, j'entends les goélands, je me dis, ça va être fou, quoi, d'habiter ici. Et eux, ils habitent ici.
Ils trouvent ça tout complètement normal.
Bah oui, voilà. Alors, un jour, il m'a dit « Mais je vais plus avoir mes copains, alors ?» Avec un peu d'inquiétude, je lui ai dit « Mais t'inquiète pas, tu vas rencontrer plein de gens ici, et ce sera des nouveaux copains, et tu vas hyper bien t'entendre aussi avec eux. » Et ça s'est passé sensiblement de la même manière pour notre plus jeune fils.
Vous arrivez le 3 août, c'est ça?
Avec les cartons, ouais, mais sans les enfants. Et au final, effectivement, comme étape première, on a choisi quelque chose qui était vraiment en plein cœur de Lorient. Et là, du coup, je découvre une vie que je connaissais pas non plus, d'avoir tout à 30 secondes. Je trouve ça super pratique, rigolo. Je suis allé voir un match de foot au stade du Moustoir, l'équipe de Lorient, qui faisait un match amical contre Guingamp. J'ai vu qu'il était 15h, j'ai proposé à mon fils d'y aller, mais en 3 minutes, on était dans le stade. Et c'est incroyable, parce que quand t'habites à Paris, t'es pas sur ces échelles-là, quoi. Peut-être que la vie est plus simple, je sais pas. Hein. C'est aussi un fantasme, sans doute. Odile, je sais pas, puisqu'elle a déjà vécu dans d'autres villes. Moi, c'est sûr que je suis bourré et d'a priori et de fantasmes.
Notamment
la bienveillance, la tranquillité et la proximité aussi. Le fait que, je sais pas, que les choses soient plus simples et du coup moins dures dans les relations humaines. Même si moi, j'ai réussi à grandir ici hein, sans... Je peux pas dire sans problème, mais tranquillement, quoi. Le foisonnement fait que les choses sont peut-être un peu détraquées, quoi, dans les rapports.
En tout cas, toi, tu aspires à quelque chose de plus apaisé, de plus doux.
Ouais. Et puis moi-même, du coup, l'être aussi, peut-être, quoi. Moi, à vélo, je suis déjà rentré dans des voitures parce que j'avais des freins défaillants. Ça m'a pas empêché d'engueuler la personne qui avait pilé n'importe comment. Non, ça, c'est un des trucs aussi qui me fait quitter Paris, c'est l'incivisme dans lequel nous-mêmes, on se retrouve aussi. Moi, ça me rend un peu fou, ça, quand même. J'en ai marre, en fait. Et le fait de moi-même être incivique, je trouve ça terrible aussi. Après, on est tous pressés. C'est tout le temps très long d'aller d'un endroit à un autre. Tout ça nous met la pression et on est insupportable.
Et tu t'es vu te transformer, tu t'es vu devenir insupportable.
Non, je sais que je suis dit insupportable. Moi, j'ai appris à conduire ici.
Bon courage, les habitants de Lorient. Tu devais donner trois conseils à ceux qui ont envie de partir. Qu'est-ce que ce serait ?
J'ai presque envie de dire de ne pas trop réfléchir. C'est une de mes spécialités, peut-être. Donc, je ne dis pas que c'est un point fort, j'en sais rien. Ça pourrait être ça, quand même. Ça pourrait être, en vérité aussi, d'écouter son cœur.
D'écouter son cœur, c'est-à-dire ?
Ses envies profondes, en fait. Et puis aussi, il faut relativiser, quoi. Tant que c'est en France, déjà, ce n'est pas monstrueux ce qui va se passer. Et puis que rien n'est irrémédiable, a priori, et que même si c'est en dehors des frontières, là c'est très frais hein, pour moi, mais ça va être enrichissant en vérité. C'est pas une petite mort du tout, ça pourrait être une renaissance, je ne sais pas.
Par rapport à quoi ?
Je dis ça de mon point de vue à moi, parce que j'imaginais sans doute que c'était impossible, quoi. Moi j'avais l'impression d'être scratché ici.
La peur de quoi qui t'empêche de te déscratcher de Paris ?
Juste la peur du changement, en fait, c'est tout. Après, du coup, là, nous, pour se délester de ça, on se dit qu'on part pour un an. Après avoir dit qu'on partait, on a dit, non mais, on se dit juste qu'on part pour un an. Et puis, on sait que c'est faux. C'est pas grave.
Ah, mais ça, tu me le dis à la fin de l'interview.
Ouais.
Donc là, finalement, vous êtes un peu revenu sur votre position et vous dites, non mais t'inquiète pas, on part pour un an. À qui tu dis on part pour un an ?
À nous.
Entre vous ?
Oui, oui. Non mais juste pour être tranquille. Après, on va faire comme si on allait s'installer là-bas pour de bon. Hein. Ça peut être un des conseils, ça. De se dire qu'on part pour un an.
C'est plus rassurant.
Ouais, la perspective est moins abrupte et moins définitive, en fait. Il y a plein de gens qui sont plus réfléchis que moi. Et ça faisait aussi 2 ans, je pense. Odile avait plutôt envie de préparer un départ. Et je lui disais que moi, j'arriverais sans doute pas à le faire, la préparation. Là, on l'a pas préparé, en tout cas.
Ouais, c'était un coup de tête, quoi.
Voilà. Il va sûrement y avoir des moments un peu étonnants, là, dans les mois qui viennent. Hein. Déjà, on sait qu'on est sur une année transitionnelle, avec encore du travail à Paris, avec les compagnies avec lesquelles on travaille ici. Mais en même temps, on a très envie de rencontrer et découvrir plein de gens à Lorient et réussir à proposer ce qu'on arrive à faire ici, mais là-bas.
Oui, donc votre objectif à tous les deux, c'est pas forcément de continuer à faire des allers-retours à Paris pour travailler.
Non, non, notre objectif, c'est de s'implanter à l'endroit où on habite et de travailler à cet endroit-là par cohérence, en fait. Même si je dis c'est simple, c'est pas le fait de le faire qui est compliqué. C'est plus tard qu'on verra si c'est simple ou pas, en vérité.
Ok, alors moi je dis ciao Paris. Mm-hmm. Toi, tu dis quoi, Tristan ?
Eh ben moi, je dis bonjour Lorient.
Alors, la vie est-elle plus simple à Lorient ? C'est comment d'emménager dans une nouvelle ville et d'y être reconfiné quasiment tout de suite ? Si les réponses à toutes ces questions vous intéressent autant que moi, je vous dis à dans 15 jours pour l'épisode 10 et la suite des aventures de Tristan dans les montagnes russes du changement de ville. Abonnez-vous sur votre application de podcast pour être notifié des prochains épisodes et suivez-nous sur Facebook et Instagram @ciaoparislepodcast, tout attaché, ciao, c-i-a-o.